Bonjour à vous, donc bonjour à tous ceux qui nous suivent sur Radio Maria France. Et je suis très heureux de continuer cet itinéraire de croissance spirituelle, devenir chrétien. On est à la quatrième émission et aujourd'hui, comme on a bien entendu, le thème est « Qui est Jésus-Christ pour nous, pour moi ?» Alors, c'est très intéressant. Donc, j'aimerais bien entendre des témoignages, des réponses à cette question, parce que, en effet, c'est la question de la vie. On a entendu dans les dernières émissions comment Dieu nous aime, que parfois on n'arrive pas à cet amour à cause du péché. Et que Dieu a pensé justement une histoire de salut, une solution de salut qui est en Jésus-Christ. Mais en effet, souvent nous on a besoin de le connaître parce que cette histoire de salut va devenir justement concret, comme dit Paul, Saint Paul dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 2, verset 8, par grâce et par la foi. Donc, on a besoin de dire, voilà, comment je peux croire en lui? Qui est lui pour moi? Qui est lui pour nous? Et voilà, je vais commencer à poser une série de questions pour mieux pouvoir répondre. Première question que je me pose, c'est est-ce que Jésus a-t-il réellement existé? Parce que souvent, on entend des personnes nous dire ah, mais peut-être c'est toute une histoire de l'Église, c'est toute une histoire des prêtres, etc. Donc, je cite deux grands historiens, un historien juif, donc pas chrétien, et un autre, un historien païen, latin. Donc, le premier, c'est Flavius Joseph, il disait à cette époque, Jésus, un sage, apparaît, si on doit être appelé un homme, car il était l'auteur d'œuvres prodigieuses. Donc, Flavius Joseph reconnaît que c'est un homme qui a fait des choses merveilleuses, des prodiges, des miracles. Tacite, historien latin, il va dire comme ça. L'auteur de cette dénomination, le Christ, sous l'empire de Tibère, donc il donne une contextualisation historique, avait été condamné à une peine par le procureur Pilate, mais refoulé par le moment, la superstition, il appelle comme ça l'expérience de l'Église, la superstition initiale a éclaté à nouveau, non seulement pour la Judée, l'origine de ce mal, mais aussi à Rome, où toutes les choses atroces et honteuses arrivent. Donc, à partir de ce témoignage, on peut dire Jésus-Christ est un personnage historique. Et quel personnage? Deuxième question que je me pose souvent, certaines me disent, oh, mes pères, souvent, quelqu'un, peut-être quelques frères musulmans, il nous dit que nous, à l'Église, on a manipulé la Bible, donc Jésus n'est pas celui qui nous disons. Alors, comment savons-nous que ces textes écrits il y a longtemps n'ont pas été modifiés pendant des siècles? C'est la question que je me pose. Alors, si on met dans un schéma un peu des écrits très anciens, presque proches de la vie de Jésus, nous savons bien que quand nous prenons l'Ancien Testament, et surtout le Nouveau Testament, parce que c'est le Nouveau Testament qui nous parle de Jésus, alors nous voyons que nous avons beaucoup de copies, contre les 8 copies qu'on a de l'original d'Hérodote ou de l'histoire romaine de Tite Live, nous avons 24 000 copies du Nouveau Testament. Ça, c'est une autre chose qui c'est sérieux ce qu'on dit de Jésus. Bien sûr, le Nouveau Testament ne va pas parler comme le journal ou comme un livre d'histoire, mais certainement, nous voyons parmi les copies qu'aujourd'hui on a, par exemple la version à elfes, la version liturgique, de la version en grec. Moi, j'ai eu la possibilité d'étudier un peu ces langues dans laquelle, cette langue dans laquelle le Nouveau Testament est écrit. Je me rends compte en effet qu'il n'y a pas de décalage et on peut affirmer que ces textes ne sont pas été modifié, donc le personnage de Jésus nous est livré dans la Bible, dans le Nouveau Testament, vraiment à manière, je pourrais dire, fidèle de l'expérience de ceux qui ont écrit. Encore une question. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire de Jésus à travers les évangiles, à travers le Nouveau Testament? Alors, je vais citer quelque chose pour nous dire qu'est-ce que les évangiles nous disent. Alors, déjà, Jésus était un homme tellement normal qui, parfois, comme nous, peut-être, en ce moment de rentrer après quelques temps de pandémie, il avait la fatigue. Oui, Jean 4, 6 nous dit « Il y avait le puits de Jacob, Jésus donc fatigué du voyage, assis près du puits. » Il est vraiment homme, et donc il fait l'expérience de la fatigue. On peut dire que aussi Jésus, de temps en temps, il avait la faim. Donc, Marc 11, 12, « Le lendemain matin, alors qu'il quittait Béthanie, Jésus avait faim. » Et à un certain moment, on sait bien qu'il aimait les figues. On le sait quand il va voir qu'il n'y a pas de fruits de figues dans un arbre. Et lui, il aimait beaucoup cela. Encore, est-ce que Jésus a eu peur? Bien sûr. Luc 22, 44. Entrant dans le combat, il pria plus intensément et sa sueur devint comme des gouttes de sang tomba sur le sol. C'est vraiment l'expérience du Gethsémani, là où Jésus prend conscience de l'approcher de la mort sur la croix. Encore, nous, on pense toujours dans une société qui parle de positivité. C'est bien être positif. Je préfère dire être appréciative. Mais Jésus avait aussi la tristesse. Eh oui. Matthieu, chapitre 26, verset 38. Jésus leur dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Jésus fait l'expérience, en effet, de quelque chose qui l'accable, comme nous tous. Encore, mais il n'y a pas que ça, Jésus était dans la joie, oui. Luc 10, 21, à cette même heure, Jésus exultait, littéralement, il sautait de joie dans le Saint-Esprit. Alors, vous voyez, vraiment ça nous dit la valeur, la puissance de l'expérience humaine de Jésus, ce que nous pouvons dire déjà en lisant certains passages de l'Évangile, mais j'ai choisi simplement ceux qui nous mettent très proches de l'humanité de Jésus. Alors, une autre question, comment Jésus lui-même s'est présenté? Alors là, on va entendre Jésus se présenter. Je vais citer d'abord Jean 14, 9. « Celui qui m'a vu a vu Dieu le Père. » Donc, c'est vraiment l'unité de cette humanité qui est proche à nous avec le Père qui est Dieu, le Père qui est en lui. Lui est l'unique chose, tel Père, tel Fils, on dirait avec un proverbe. Encore en Jean 6, 35, Jésus dit « Je suis le pain de la vie ». Jésus va se présenter comme une nourriture substantielle dont on a besoin. C'est l'Eucharistie. C'est justement cette célébration qui va nous donner quelque chose que nous avons besoin pour grandir de dimanche en dimanche jusqu'à devenir Eucharistie nous-mêmes en nous offrant à nos frères et sœurs à la suite de Jésus. Encore en Jean 8, 12, Jésus nous dit « Je suis la lumière du monde ». Et je peux dire par expérience personnelle que quand on n'accueille pas Jésus dans son cœur, on peut faire l'expérience des ténèbres. Moi, je peux le dire, dans mon adolescence, j'ai vécu vraiment une expérience des ténèbres. Et quand j'ai accueilli Jésus, quand j'ai accueilli vraiment sa personne, parce qu'il est véritablement homme et véritablement Dieu dans une unique personne, Jésus, justement, a éclairé ma vie. Encore à Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je dirais chargés, et je vous donnerai du repos. » Ah, qu'est-ce que c'est merveilleux entendre cette présentation de Jésus. Lui est le véritable repos. Lui est vraiment cette source de repos pour nous. Un peu comme parfois on peut avoir l'expérience d'un ami que, en nous écoutant, en nous accueillant chez lui, etc., nous met bien à l'aise. Eh bien, il va dire aussi en Jean 11, 25, « Je suis la résurrection et la vie ». Donc, il transforme tout type de mort dans notre vie, tout type de choses mortifères, pour nous faire entrer dans la vitalité, dans la véritable vie en lui, en Jésus-Christ, par la foi, par la conversion. Alors, j'espère qu'on est en train de nous éclairer. Encore Jésus nous dit, à Marc 2, 7, « Qui peut pardonner les péchés sinon Dieu seul ?» Et il va continuer en Jean 10, 30, 33, « Le Père et moi sommes un. » Et les Juifs lui répondirent, « Tu n'es qu'un homme et tu t'es fait Dieu. » En effet, Jésus se présente, voilà, cette personne qui en lui-même a deux natures, l'humanité, donc vraiment homme, on dit dans le credo, et vraiment Dieu. Donc vous voyez, il est capable donc de pardonner les péchés, parce que cela est vraiment un pouvoir, on pourrait dire, avec un langage juridique, canonique, c'est la potestas, c'est vraiment son pouvoir de pardonner les péchés. Alors, une cinquième question pour nous éclaircir, quelle raison avons-nous de croire en Jésus ? Parce que certaines me disent « Bon, moi, tout ça, c'est le catéchisme, c'est la théologie, moi, ça ne m'intéresse pas trop, ça me sert à quoi croire ?» Alors, je cite un grand écrivain, Clive Staples Lewis, qui a écrit « Les chroniques de Narnia », ce roman inspiré à des valeurs chrétiennes. Et il dit comme ça, « Soit Jésus était et il est le Fils de Dieu, soit il était fou ou même le diable. Nous ne devons pas nous limiter à déclarer qu'il était un grand humaniste. Jésus ne nous a pas laissé cette alternative. » En effet, ce qui nous dit Lewis, c'est vraiment que devant Jésus, nous devons prendre un choix. Soit on fait le saut de la foi, pour citer un peu le film d'Indiana Jones, le pas dans la foi, soit nous vraiment, pour nous, on commence à dire il était un prophète, il était fou, bah, pour moi c'est même le diable, parce que. Et voilà, moi personnellement, je peux appuyer mes raisons sur ces enseignements. Et oui, dans l'Évangile, on a beaucoup d'enseignements qui me font beaucoup de bien sur ses œuvres. Et Jésus continue à faire des œuvres dans l'Église, des grandes œuvres comme des petites œuvres. Regardons bien combien d'associations caritatives font du bien si ce n'est pas l'œuvre de Jésus. Et les miracles, les guérisons, et tous ceux qui vraiment, parfois nous ne comprenons pas, et à la base, la cause, c'est une prière, une expérience spirituelle. Sa personnalité, quand on lit la Bible, on voit vraiment cette personnalité merveilleuse qui nous donne l'espérance, qui nous donne vraiment d'aller en avant parce qu'il y a vraiment quelque chose qui nous donne une chance. L'accomplissement des prophéties, Jésus est vraiment l'accomplissement des promesses d'Abraham, des patriarches. C'est à lui que Dieu finalement il décide, comme on a dit la fois dernière, de nous sauver, de nous donner une solution. L'Église est vraiment la continuation de la mission de Jésus. Et nous pouvons expérimenter dans l'Église vraiment la beauté de cette épouse, comme on voit dans la lettre aux Éphésiens, qui est l'épouse du Christ. Encore, on a les sacrements. Les sacrements, on va le voir plus avant, c'est vraiment des signes concrets de sa présence dans notre vie. Vous voyez, ce sont des raisons pour croire en Jésus. Alors là, j'aimerais poser une question et je la prends de l'évangile de Matthieu 16, 15. Et vous, toi qui m'écoutes, qui dites que je suis?
Voilà, nous avons Jacqueline qui souhaiterait intervenir.
Parfait.
Bonjour Jacqueline.
Bonjour mon père, bonjour toute la société de la radio de Marie. Eh bien écoutez, est-ce que Dieu a existé? Il me revient une pensée, j'allais à l'école, en 1947 j'avais 10 ans, on étudiait avant Jésus-Christ. On étudiait Ramsès II et la maîtresse, qui était une maîtresse de l'école tout à fait communale, a dit « on arrive à l'époque de Jésus-Christ, on ne peut pas contester qu'il ait existé ». D'ailleurs, on est 2021 ans après, on dit toujours « avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ ». Alors que l'on soit catholique ou pas, Jésus-Christ a existé. Personne ne peut le contester, même d'une autre religion. Bon, alors, qu'est-ce que Jésus est pour moi? Mon grand frère. Moi, je suis quelqu'un de faible, sans défense, et je m'occupe de rien, c'est Jésus qui s'occupe de tout. Je suis en confiance, quoi qu'il arrive, c'est Jésus qui s'occupe de tout. Voilà, c'est mon grand frère. Voilà ma façon de penser de Jésus.
C'est très belle votre témoignage, parce qu'en effet, vous avez fait l'expérience de ce Jésus qui est vivant, qui est providence, auquel on peut se confier, auquel on peut demander de l'aide quand peut-être nos forces ne sont pas capables de porter le poids.
Voilà. Et voilà. Jésus me protège, me conseille. Il m'a demandé d'être ambassadrice de la paix. Un jour, on m'a dit, faut vous défendre. Je dis, non, Jésus m'a demandé d'être ambassadrice de la paix. Et ça marche très bien.
Et alors, on va dire à tous ceux qui nous écoutent, voilà, cette belle appel de Jésus d'être ambassadeur de paix, c'est vraiment un appel qui peut-être peut être aussi pour nous tous. Voilà. Merci beaucoup.
Vivre de paix et d'amour, comme il nous le demande. Et puis voilà, on serait au paradis sur la terre si tout le monde en avait envie. J'ai le souvenir des JMJ de l'année de mes 60 ans, si tous les gars du monde se donnaient la main. Une immense farandole sur le boulevard des Maréchaux, avec les cloches de Paris qui sonnaient de tous les côtés, c'était magnifique. Jésus nous donne que des conseils de bonheur.
Amen. Merci vraiment, vous avez fait vraiment une forte expérience du Seigneur et vous nous aidez aussi à nous tous à dire des mots qui est Jésus pour nous. Merci beaucoup.
Au revoir mon père, merci.
Au revoir. Au revoir.
Merci Jacqueline.
Très bien. Alors là, j'aimerais bien maintenant donner la parole à un jeune que j'ai connu qui va nous témoigner de son parcours, c'est Théo. Alors, restez à l'écoute parce qu'il a un fort témoignage. Et Théo, il était un peu bon bouddhiste, voilà. Et il a fait l'expérience de la personne de Jésus au point de le suivre. Bon, on va l'écouter, hein. Alors, je vais le mettre aussi en vidéo pour ceux qui nous suivent dans notre chaîne.
Quand j'étais petit, j'étais quelqu'un de plutôt égoïste. Enfin, j'avais une conception du bonheur plutôt matérialiste. Enfin, je pensais que pour être heureux, fallait avoir beaucoup d'argent. Et en fait, on a commencé à faire les cours de philosophie. Et le deuxième cours qu'on a fait, c'était un cours sur le bonheur. Et donc, du coup, je me suis dit, ben voilà, il faut que je sois heureux. Alors, j'ai commencé à réfléchir, donc démarche philosophique, intellectuelle, tout ça, ce qui pourrait me donner le bonheur. Et celui qui m'avait le plus séduit dans tout ce qu'on avait vu, c'était Épicure. Et Épicure, il disait, pour être heureux, il ne faut pas avoir de troubles de l'âme et pas avoir de troubles physiques. J'ai commencé à voir le mensonge partout, quoi. Enfin, en moi-même, chez les autres gens, parce qu'en fait, on est sans cesse en train de chercher à donner une image de soi, mais donner une image de soi, c'est encore le mensonge, quoi. J'ai commencé vite à m'intéresser à la spiritualité bouddhiste et donc à commencer à méditer, à faire ce genre de choses, et très vite dans mes bouquins on parlait de la notion d'éternité, d'infini, de l'éternel présent qui ne s'arrête jamais, et donc vite on arrive à Dieu en fait. Mais donc pour moi Dieu c'était une énergie, c'était une forme, c'était la source, mais c'était pas le Dieu personnel des chrétiens. Donc je suis parti en Chine avec cette idée là, mais en fait là-bas on a rencontré un Français, donc qui était un chrétien catholique, qui s'appelait Daniel, et plusieurs fois pendant nos échanges, on parlait donc de notre recherche de la vérité, et nous, avec mon meilleur ami, on lui disait qu'on pensait qu'il y avait plusieurs voies qui menaient à Dieu, que c'était à nous de choisir la nôtre. Et lui, il nous a dit non, il n'y a qu'une seule voie qui mène à Dieu, c'est Jésus. Il dit, tu peux t'y prendre comme tu veux pour trouver Dieu, tu vas forcément bloquer sur Jésus un moment, c'est lui la pierre angulaire. Et en fait, moi, ça m'a beaucoup touché. Donc j'ai commencé en fait à lire le Nouveau Testament, et en fait j'ai pas décroché, quoi. Quand j'ai vu que Jésus disait bah priez, bah du coup j'ai commencé à prier tous les jours. Quand j'ai vu qu'il disait vous n'aurez qu'un seul maître et c'est moi, j'ai dit bah d'accord, tu seras mon seul maître. Donc du coup tous les trucs de méditation bouddhiste et tout que je faisais, j'ai arrêté. Quand j'ai vu que quand on était chrétien on faisait pas d'ésotérisme et trucs comme ça, bah j'ai arrêté et j'ai commencé à me contenter du Nouveau Testament, de la prière et d'essayer de faire ce que Jésus disait. Jésus disait qu'il fallait se faire baptiser, donc du coup il fallait que je me fasse baptiser. Donc j'ai décidé de rentrer en France. Donc je suis arrivé à Paris, j'avais juste un ami pour m'héberger et j'ai donné tout mon argent, enfin j'avais presque pas d'habits et aucun projet si ce n'est celui de dire à Dieu faut que je me fasse baptiser. Et voilà, et en fait j'ai pris la décision de rester sur Paris, et le jour où j'ai pris la décision de rester sur Paris, en fait, j'avais un travail et un logement. Et je me suis retrouvé à habiter 200 mètres carrés gratos pendant 2 ans et avoir un travail là où j'habite, quoi. Et enfin voilà, le Seigneur, il dit, celui qui abandonne tout pour moi reçoit au centuple. Et j'ai vraiment reçu au centuple, quoi. Il me donne tout depuis, il me donne tout. Je lui demande un logement, il me donne un logement. Je lui demande un travail, il me donne un travail. Enfin voilà, il m'a vraiment comblé. Il m'a donné une deuxième mère, on va dire. Enfin voilà, Dieu, il donne tout quand on s'abandonne à lui.
Amen. Donc, c'est très beau le témoignage de Théo, qui en effet a expérimenté Jésus dans sa personne. Alors voilà, avec ce beau témoignage, on va terminer cette émission. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine semaine, vendredi prochain à 14h, Devenir chrétien, cet itinéraire de croissance spirituelle. N'hésitez pas à nous écrire, à réécrire à Radio Maria pour témoigner un peu de votre foi. Et si vous envoyez vos petits textes, on pourra justement les lire ou même appeler en direct pour être ensemble dans cette mission d'annoncer l'Évangile, d'annoncer Jésus-Christ. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine.